carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts s'intéresse à l'œuvre ultime dans l'art. Au cours d'une série d'émissions, nous allons nous pencher sur les dernières œuvres de peintres, graveurs ou sculpteurs où transparaissent les derniers moments de l'artiste. Un rendez-vous que nous vous donnons régulièrement avec le professeur Jacques Lubinet, qui a une double casquette, celle de professeur d'hématologie, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie de médecine, et celle de correspondant à l'Académie des beaux-arts, car vous vous intéressez beaucoup aux artistes contemporains, Jacques Lubinet. Alors pourquoi l'œuvre ultime ?
Eh bien, je vais vous faire répondre par Chateaubriand, c'est mieux. Dans La vie de Rancée, à propos des derniers tableaux de Poussin, et en particulier du Déluge, Chateaubriand a cette phrase merveilleuse « Ce tableau rappelle quelque chose de l'âge délaissé, de la main du vieillard, admirable tremblement du temps. » Et puis il continue « Souvent les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d'œuvre, c'est leur âme qui s'envole. » Et presque 200 ans plus tard, Gaétan Picon écrit un livre qu'il intitule « Admirable tremblement du temps » dans le même style, toujours le même niveau. C'est la laine du temps qui témoigne de la vie d'une œuvre. Quelques-uns des plus beaux tableaux viennent de la vieillesse du peintre. Voyez, bon, alors je ne suis pas sûr qu'on soit capable de garder le même niveau. Mais je crois que c'est très intéressant qu'on ne peut pas parler de l'œuvre ultime pour tous les peintres. Il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui en ont une. Et l'exemple de Matisse est très spectaculaire.
Alors justement, cette première émission va être consacrée à Matisse, à la fois peintre, dessinateur, sculpteur, graveur et aussi architecte, pour avoir dessiné les plans de la chapelle de Vence. Matisse était un artiste complet qui vivra pleinement jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ses 85 ans, malgré une opération qui, une dizaine d'années auparavant, le forçait à rester le plus souvent alité. Pourquoi Matisse ?
À cause de ce qui a été écrit sur lui. Et je copie, je traduis, j'essaye de répéter, à cause du travail que Pierre Schneider a fait sur Matisse, travail énorme, un livre paru en 84 de pratiquement 2000 pages. Et puis, et ça fait partie de l'actualité, une récente exposition qu'il a organisée à l'espace Bismarck à propos de la gravure. Il montre qu'au fond, on a toujours un peu méprisé la gravure de Matisse, mais que si on la regarde bien, elle permet de comprendre pratiquement toute l'œuvre. Et elle permet de la comprendre à cause de ce qu'avait dit une de ses amies et clientes, Gertrude Stein, qui, à propos de Matisse, disait « Il cherche toujours à faire deux choses opposées. Il cherche toujours à concilier deux inconciliables. » Et Pierre Schneider prend exemple de la gravure pour montrer comment il s'accorde ces inconciliables. Et ça se termine par un tableau où Matisse a dit « Voilà, voilà mon chef-d'œuvre. » Ça, c'est rare qu'un peintre, un an avant sa mort, dise « Voilà mon chef-d'œuvre. » Et il écrit à son fils « Je crois que j'ai fait mon chef-d'œuvre ». Et son chef-d'œuvre, c'est qu'il a su concilier trois choses. Premièrement, la couleur et le dessin. Deuxièmement, la perspective soi-disant islamique avec la perspective classique. Et troisièmement, le portrait classique et le portrait abstrait. Alors, si vous voulez, on va parler des trois. Bon, premièrement, concilier la couleur et le dessin. Alors ça remonte à très très longtemps. C'est Matisse Fauve, vous voyez. Matisse qui va dans le Midi, qui peint avec ses copains et qui peint un tableau qui s'appelle Luxe, Calme et Volupté, qui est un tableau fauve. C'est-à-dire domination totale de la couleur, pas de dessin. Et puis tout de suite, et ça c'est intéressant, Matisse se reprend. Et il écrit à Polchignac « Avez-vous trouvé dans mon tableau un accord parfait entre le caractère du dessin et le caractère de la peinture ? Selon moi, ils me paraissent totalement différents l'un de l'autre et même absolument contradictoires. Le dessin dépend de la plastique linéaire ou sculpturale, la couleur dépend de la plastique colorée. Résultat, la peinture surtout divise, détruit le dessin qui tire toute son éloquence du contour. » Déjà, nous sommes en 1905, il voit la difficulté. Et tout de suite, il dessine. C'est-à-dire que sortant du milieu fauve, il est dans le Midi, il fait chaud, vous voyez le Midi au mois de juillet où tout le monde fait n'importe quoi et se laisse aller.
Et un courant pictural qui triomphe, voilà, à cette époque.
Absolument. Hein. Il le crée. Il sera un des grands fauves. Mais un remords que n'ont pas les autres. Les autres fauves font jouer de la couleur pendant des années. Lui, tout de suite, dessine et grave. Parce que le dessin, c'est tout à fait autre chose. Il a l'impression que s'il continue, il arrive dans le chaos.
Mais c'est curieux quand même pour un fauve, justement, que de graver en noir et blanc et d'avoir des lignes très épurées.
Oui, c'est curieux quand on n'est pas Matisse. Parce qu'il faut trouver un antidote. L'antidote de la couleur, c'est le dessin. C'est le trait. Et la manière la plus facile, c'est de dessiner, c'est aussi de graver. Alors, c'est très singulier, car dans ses premières gravures, en réalité, il joue de deux choses. D'une part, le fond, qui est noir, et puis le blanc du centre. Il ne dessine pas tellement, mais très vite, il va dessiner, et ça va être une obsession jusqu'en 1914, vous vous rendez compte? Jusqu'en 14, il va passer son temps à faire des lignes, y compris à écrire. Et puis, dans ses tableaux, il va essayer d'accorder les deux. Ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple et c'est très difficile. Mais il fera les tableaux les plus colorés du monde. Mais il ne faut pas que la couleur déborde. Pour lui, c'est le chaos. Il ne veut pas du chaos. Il ne veut pas que ça aille n'importe où. Il veut absolument régler en permanence ce qui se passe. Et pour qu'elle ne déborde pas, il faut qu'elle joue avec autre chose qu'est le dessin. Et de temps en temps, il manque. Il rate. Vous avez devant vous l'Atelier Rouge. Admirable tableau, malheureusement, n'est pas en France, c'est à New York. Eh bien, il y a juste avant l'Atelier Rouge, un atelier qu'il appelle je ne sais pas quoi, qui est le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout une énorme couleur rouge qui traverse le tableau, il y a au contraire des plans, et dans les plans, il y a de la couleur. Vous voyez, l'obsession, ça va être toujours la même chose. Et puis le triomphe de l'accord couleur-dessin sont les papiers découpés. Le jour où il découpe dans du papier, ce qu'il fait, c'est qu'il a dessiné une forme, mais cette forme, elle est colorée. Et vous savez que c'est presque venu par hasard. C'est parce qu'il écrivait un livre qui s'appelait Jazz, il trouvait que la production était très mauvaise, et c'est la secrétaire qui en avait marre de refaire des épreuves contre épreuves sur épreuves, et qui lui dit, écoutez maître, on va prendre du papier coloré qu'on achète n'importe où, tâchez de couper dedans, comme ça, de toute manière, la reproduction sera parfaite, puisque le papier, il est partout. Ce papier coloré, c'est ce qu'on appelait les gouaches colorées. Et ce jour-là, avec ses ciseaux, il dessine une forme, mais en même temps, il trace la couleur. Il limite la couleur. Il ne dessine plus, mais il dessine dans la couleur.
Il sculpte.
L'accord est fait. Voyez.
Il devient sculpteur.
Il accorde les deux. Et paradoxalement, il redonne une énorme importance à la couleur parce qu'on ne voit pas le trait qui entoure. Le trait, c'est le fond. Alors, il va multiplier ses gouaches colorées de 1941-42 jusqu'à sa mort. Alors, il peint un petit peu aussi. Mais en réalité, tout va se faire. Et la chapelle, c'est une gouache colorée. Oui, tout est gouache colorée. Les livres, il va s'intéresser beaucoup aux livres, seront faits à partir de gouaches colorées. Là, l'accord est fait. Enfin, la première opposition, couleur, dessin, est résolue. Il sait la résoudre.
Vous parlez de la date de 1941. Rappelons qu'aussi, ça correspond à la date de son opération.
Exactement.
Et il est donc obligé de trouver une autre formule pour créer.
Oui, non, pas tout à fait. Il est opéré. Il avait une opération très grave. Il va à Lyon. Quand il ressort de Lyon, il est bien. Et il ne mourra pas des suites de ce opératoire. Il a failli mourir. Mais bon, il s'en tire très bien, si je peux dire. Mais survient une complication redoutable, ce qu'on appelle une éventration. C'est-à-dire que les muscles de son ventre ne se rejoignent plus. De telle sorte qu'il ne peut plus rester debout plus de 20 minutes. Il faut lui mettre une ceinture. Cette ceinture est très difficile à tolérer. Donc les photos que tout le monde connaît, où il est en permanence assis, couché dans son lit. Et puis cette manière de travailler, il est très peu debout. Alors quand même, il se force à aller à rester debout 10 minutes, un quart d'heure, mais au bout d'un quart d'heure, il est essoufflé.
Alors, au tout début de cette émission, vous nous parliez « Voilà mon chef-d'œuvre », phrase de Matisse en parlant de décoration masque. On n'a pas cité le titre de la peinture « Décoration masque » réalisée en 1953, un an avant sa mort. On y retrouve aussi, vous en avez parlé très rapidement au début, mais intéressons-nous maintenant à cette partie-là, à la perspective.
Exactement. On y retrouve l'espace, plus général. L'espace, là encore, suite opératoire. À la fin de son opération, il rêve qu'il est couché dans un cercueil. Il se réveille en pleine angoisse. Il ne peut pas sortir de son cercueil, il est dans son lit. Bon, je veux dire, c'est un rêve. Mais il gardera l'obsession d'élargir l'espace. Il paraît qu'il faisait toujours ce geste avec ses bras. Vous voyez, il écarte les bras. Pour l'espace, il faut élargir, il faut sortir. Il faut sortir de la perspective. Bon, alors, il en était déjà beaucoup sorti. En réalité, ce rêve traduisait un vieux problème. Bon, il avait commencé, comme tous les peintres, par la perspective traditionnelle. Et puis ensuite, dans les merveilleux tableaux que sont ce que j'appelle les tableaux russes, qui sont à Moscou, la danse et la musique, il y a un espace très singulier que Schneider appelle l'espace abyssin, c'est-à-dire l'espace des grands fonds, qui est infini, si vous voulez. Et c'est là où il a fait ses chefs-d'œuvre. Et puis, le passage de l'un à l'autre est compliqué, difficile, parce qu'il veut toujours combiner ces espaces qui s'opposent. Et il découvre l'espace islamique. Alors, il va un petit peu en Afrique du Nord, il est très déçu, il trouve que l'Afrique du Nord, c'est laid, que le folklore est horrible, il rapporte un tout petit vase moche. Bon, bref, il fait rien, si vous voulez, il fait pas grand-chose. Là. Mais il y aura toute une période où il va être obsédé par les tissus, les tapis. Et ça, ça date, ça précède de longtemps l'œuvre ultime. Ça date déjà de 1912-13, où ses intérieurs sont remplis de tissus, de tapis. Le tapis devient un de ses moyens pour à la fois couvrir, si vous voulez, c'est-à-dire que ça forme une perspective, d'une part pour casser un peu la forme, parce que dans les tapis, il n'y a pas de dessin, il y a un motif qui peut se répéter indéfiniment, et surtout, ça joue à l'extension. Le tapis, vous pouvez le continuer jusqu'où vous voulez. Oui. Alors, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans l'œuvre ultime, ben c'est un tapis. C'est un tapis, finalement. C'est un tapis avec... Et vous voyez qu'au centre, il y a une colonne, il y a deux petits barreaux latéraux. Tout ça, c'est complètement, si je peux dire, mangé par le déroulement du tapis. Vous voyez ? Plus de motifs, le rythme, ce sont ces thèmes qui reviennent régulièrement. Et d'autre part, ça s'étend, l'œuvre ultime, à 10 mètres de large. Alors, on le reproduit dans nos petits bouquins à la moche, mais ça a 10 mètres de large. C'est aux États-Unis. Et donc, si vous voulez, là, c'est le triomphe pour lui de l'espace islamique qu'il avait inventé depuis longtemps et qu'il est un des seuls à avoir aimé. Les autres, quand ils vont en Afrique du Nord, ils sont séduits par la couleur, par la lumière, mais pas du tout par l'espace.
Par l'espace et par les formes.
Par l'espace et par les formes, exactement. Donc, dans cette œuvre ultime, l'image vraie, c'est un tapis. Schneider résume parfaitement la place de l'espace islamique dans l'œuvre ultime, et il la définit comme telle, immense tapis floral horizontal qui englobe les verticales du centre et des bords, dont ni les papillotements des corolles, ni la corone fleurie verticale qui le clive en son milieu, ni les minimes irrégularités infligées à la symétrie de l'ensemble ne parviennent à troubler l'harmonie. En outre, la planéité de sa surface garantit l'expansion horizontale sans fin. Expansion qui, puisque la gouache a 10 mètres de large. Et puis, voilà, donc la deuxième opposition est résolue, si vous voulez. Il a su tout unir dans l'espace islamique. Alors, il reste une autre opposition qui est peut-être la plus intéressante. Il le dit, écrit tout de suite. Et quand on regarde l'œuvre qui est devant vous, Schneider écrit « Par contre, deux corps étrangers sont des masques. Inséré de part et d'autre de la colonne fleurie devait mettre à mal cette harmonie. Deux visages, deux masques empruntés au groupe d'aquatintes exécutés en ces mêmes années. » Et ça, c'est la troisième discordance qui veut coûte que coûte concilier, c'est le portrait. Alors le portrait, comme tout le monde, il a compensé par des portraits conventionnels en perspective et ça l'ennuie. Alors qu'il a un don très singulier de voir les particularités de quelqu'un. Tout de suite, même dans le dessin le plus traditionnel, il voit les trois petits points qui vont définir, qui vont opposer ce quelqu'un à quelqu'un d'autre. Il est même arrivé à dessiner une femme qu'il ne connaissait pas en regardant sa petite fille. Vous voyez, tour de force. Bon, en réalité, il faut coûte que coûte que le portrait rentre dans un espace. Et peu à peu, et ça c'est fascinant, il passe de l'espace figuratif, de la perspective normale où on voit les choses, à la réduction des choses. C'est-à-dire, peu à peu, il passe un esprit pratiquement abstrait pour lequel, à la fin, on ne voit plus rien, si vous voulez. Il écrit « Les cheveux de ces personnages sont si fins, si légers, si autonomes, qu'ils fascinent par eux-mêmes à tel point que nous finissons par oublier qu'ils appartiennent à une chevelure et celle-ci à une personne. Sont-ils une vague, une tige, une abstraction ? Autant dire l'avant-dernière étape avant la disparition de la figure dans l'insondable fond blanc. Parmi ces fascinantes séquences inventées par Matisse, certaines franchissent effectivement la frontière avant le néant. » D'autres envoient au contraire à l'épaisseur initiale d'une réalité reconnaissable. Et ça, c'est ce que Schneider appelle le va-et-vient. Le va-et-vient entre le figuratif et l'abstrait. Et ce qui est très intéressant, c'est quand il dessine une série, et puis au milieu, il y a deux tableaux sublimes. Parce que les deux choses, j'ose pas dire concordent, mais se rencontrent. Les deux choses ne s'opposent plus. Ils sont à la fois abstraits et figuratifs. Il y a ce qui est le plus important, mais il y a toute la personnalité de Matisse qui s'est complètement collé à eux, si vous voulez. Et ça, c'est ce qu'appelle la navette. Oui, ça va le passionner. C'est pour ça qu'il répète ses dessins. Et à la fin, il arrive à une idée qui est un peu différente, celle du masque. On définit un personnage que par un trait, sur un fond blanc. Et ce qui est très singulier, c'est que ces masques portent des noms. C'est d'abord sa famille, ensuite l'entourage. Et ils sont définis par très peu de choses. C'est juste un trait. Et comme il ne peint plus pratiquement, il peint beaucoup moins à cause de son éventration, il utilise l'aquatinte, c'est-à-dire un bambou qui est comme un pinceau, si vous voulez, trempé dans l'encre noire, de telle sorte que le dessin paraît beaucoup plus fort sur un fond blanc, si vous voulez. C'est comme s'il voulait réinventer la peinture. Et il faut voir le spectacle, enfin on voit que des photos, nous, mais il tient son bambou à 3 mètres de l'endroit où il peint. Vous voyez, c'est presque un effort physique pour le tenir et le faire en une seule fois après avoir fait 50 ou 60 dessins. Alors c'est ce qui apparaît là, vous voyez ces masques-là.
Dans Décoration masque, hein, donc l'œuvre ultime en 1953.
À l'œuvre ultime, la décoration masque, et je reprends Schneider au premier abord. Ces masques semblent disproportionnés, débordés par la marée florale, mais très vite ils attirent et retiennent l'attention. C'est quand elle émerge d'un fond blanc, qui n'est pas celui de la décoration, mais un fond intensif et non extensif, comme le parterre des fleurs. Et il y regarde de plus près. Si on s'attarde, nous prenons conscience d'autre chose. Peu à peu, il y a donc deux visages qui nous semblent, nous pour nous, très proches. Eh bien, ces deux visages cèdent d'être des masques pour devenir des créatures humaines qui laissent effleurer, et ça c'est la créature humaine, l'ébauche d'une moue, un soupçon de sourire, un clignement de l'œil, en un mot, le temps de la contemplation rend possible ce qu'il appelle le trip, le voyage qui, dans le temps présent, métamorphose de spirituel en matériel, l'abstrait en humain. Voyez que uniquement par sa technique des masques, il a su relier les deux bouts du dessin, abstraction, figuration, représentation et abstraction. Là, on tombe à la limite du génie. Et il en est très heureux.
Eh bien, donc notre émission se termine ainsi. Ainsi, nous avons pu donc décrypter cette œuvre ultime, Décoration masque 1953. Et puis, nous invitons nos auditeurs à consulter l'ouvrage de Pierre Schneider. J'imagine qu'on y retrouve toutes ces informations sur...
Et la reproduction de cette œuvre.
Et la
Alors, il faut un peu d'imagination, parce que c'est un livre, et qu'encore une fois, cette gouache fait 10 mètres de large.
Merci à vous, professeur Jacques Lubinet. Prochain rendez-vous avec Chardin.
Avec Chardin, et derrière, il y a tous les grands conservateurs du Musée du Louvre. Parce que Chardin, c'est vraiment le triomphe de la grande critique française. Ça se termine par Rosenberg, qui a consacré une partie de sa vie.
Merci, à bientôt. Au revoir.